WTO! Kids promise! Down, down, WTO!
Le grain de sable. Pensée globale. Une émission proposée par l'association Atacrone. Agir local. Le grain de sable.
Bienvenue sur la première émission de 2013 du Grain de Sable sur Radio Canus 102.2. Donc cette saison, waouh, c'était une belle année 2013 sur les bonnes ondes de Radio Canus. Et donc pour cette première émission, nous recevons Claude Massot de la Ligue des droits de l'homme pour évoquer la vidéosurveillance, plutôt la vidéoprotection. Donc, bonjour.
Bonsoir.
Donc on pourrait déjà commencer, pourquoi on devient moderne et on ne parle plus de vidéosurveillance et de vidéoprotection.
Déjà remercier Grain de Sable de nous avoir invités pour discuter sur la vidéosurveillance et d'autre part rappeler un petit peu que la Ligue des droits de l'homme qui dans ce domaine s'attache entre autres à défendre l'exercice de liberté que l'on va retrouver dans nos principes constitutionnels. On va les retrouver aussi dans des textes européens ou internationaux. La Ligue étudie aussi les lois qui en découlent, et dans ce cas, il s'agit principalement de la protection de la vie privée et de la liberté d'aller et venir. À Lyon, la Ligue est intervenue dans le domaine de la vidéosurveillance, principalement dans le cadre d'un collectif qui s'appelle le CIRDEL, qui actuellement est un peu en sommeil, qui est le centre d'initiative et de réflexion pour la défense des libertés à Lyon.
Ça fait plusieurs années, ça fait déjà...
Oui, depuis 2002. C'est D'accord. Au moment de la première loi Perben que le collectif s'est mis en place, dans lequel on trouvait des organisations politiques, syndicales, des associations, et entre autres, le syndicat des avocats de France et le syndicat de la magistrature. Les cinq domaines dans lesquels travaillait le CIRDEL étaient les violences policières, la prison, la justice pour laquelle ont été organisés plusieurs forums, la vidéosurveillance et la prostitution. Donc c'était très bien précisé dans la charte en 2002 lors du démarrage du CIRDEL qu'il s'agissait d'expliquer, de dénoncer les conséquences dangereuses pour notre société du développement des lois et textes sécuritaires. Et dans ce domaine, la vidéosurveillance entre dans ce domaine. Alors la vidéosurveillance... Aujourd'hui, on peut faire un constat, c'est que les années passant, on parle beaucoup moins de la présence des caméras dans le paysage urbain, comme c'était le cas dans la décennie précédente. Et il a fallu récemment l'initiative de lyonsoussurveillance.net, autour des animateurs des rébellions, pour un peu nous rappeler qu'un vaste réseau de surveillance quadrille notre quotidien. Et de temps en temps, il y a aussi des rappels sous forme de nouvelles dans des journaux. Viol d'une contrôleuse SNCF, l'agresseur retrouvé grâce à la vidéosurveillance, les Lyonnais favorables à la vidéoprotection à Villeurbanne, comme ça on en a un certain nombre, qui nous rappellent quand même...
Donc c'est quelques exemples où ça a pu servir à quelque chose.
Pour ce sont des exemples, bien sûr, où la vidéosurveillance a été associée à des événements. Quel est service ? C'est variable. Sûrement, dans un certain nombre de cas, elle sert. Dans d'autres, c'est moins sûr. Je citerai un cas tout à l'heure où elle a beaucoup moins servi qu'on l'avait dit. Donc voilà, on en parle moins. Pourtant, c'est une intrusion dans notre vie privée qui est de plus en plus forte, puisque les caméras continuent à se développer. On voit aussi dans les journaux l'installation de nouvelles caméras dans des nouvelles communes qui n'en avaient pas, ou des changements.
Ou sur Pardieu, là, sur le quartier Pardieu.
À Lyon. Pardieu, ouais. Confluence, on parlera tout à l'heure des quartiers où ça a démarré.
Et donc on n'en parle pas moins parce que ça s'est calmé, non ? Ça continue.
C'est qu'on s'habitue peut-être, nous.
Peut-être une certaine habitude, c'est peut-être aussi que ceux qui dénonçaient les caméras le dénoncent moins. Par exemple, dans les débats municipaux, à Lyon, il n'y a que d'abstention. On voit plus de vote contre, comme ce qui se passait au début. Je me rappelle d'Étienne Tête qui était monté au créneau assez fortement. Voilà.
Et justement, ces décisions, elles se font sur un programme global ou au coup par coup, à la demande? Alors,
on va regarder ça avec la manière dont ça s'est rentré à Lyon pour comprendre un petit peu le mécanisme dans lequel il y a un grand consensus entre les différentes formations politiques majoritaires qui existent. Et puis, il y a on n'en parle plus, entre autres parce qu'on ne veut pas en parler. Entre autres sur la question de l'efficacité, hein, puisque on va en parler tout à l'heure, mais si vous prenez l'exemple de la Duchère, où il y a eu les premières caméras, ben, la Duchère, c'était le premier quartier donc en 99 où on a eu des caméras, et pourtant depuis, il y a eu énormément d'initiatives pour par rapport à la délinquance, hein, principalement. Il y a eu un grand projet de ville, la politique de la ville, le contrat urbain de cohésion sociale, la zone franche urbaine, le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce, la zone d'éducation prioritaire, le programme de réussite éducative, l'association lyonnaise Tranquillité Médiation qui est intervenue, le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Et ben, malgré tout ça, il y a quelques semaines, il a été annoncé par le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, que à la Duchère, les sous-quartiers de la Sauvegarde et du Château entraient dans les 15 zones de sécurité prioritaires. Donc on peut se demander, là, quel était le rôle de la vidéosurveillance pour faire baisser la délinquance, si elle existait, dans ce quartier.
Et justement, là, on disait la Duchère, c'est le premier, et à Lyon, c'est quoi l'état des lieux au niveau des caméras?
Je crois que vous
vouliez
savoir, c'est ça, oui. Connaître un petit peu le nombre de caméras.
Puis où elles sont, dans quel quartier concentrées ou
quoi? À quoi ça correspond? Quand on regarde une carte, on tire un certain nombre de conclusions. Là, d'abord une petite précision, parce qu'il faut bien savoir de quoi on parle quand on parle de vidéosurveillance. Il y a trois grands domaines. Le premier, c'est l'espace public, celui dont principalement on va parler ce soir, qui sont les endroits que vous connaissez, hein, c'est les lieux de passage, de rassemblement, les rues, les voies de circulation, les jardins, les bâtiments publics, etc. Le deuxième espace, c'est l'espace public qui reçoit du public.
Oui, comme les banques ou des choses comme ça.
Voilà, donc les banques, la poste, les transports, et dans les transports, c'est un des plus gros consommateurs, utilisateurs de caméras, les bureaux de poste, etc.
Donc les transports, donc le métro, c'est privé.
C'est privé. Non,
c'est parapublic.
C'est un espace privé.
C'est le Citral qui a sur les études. C'est Keolis, filiale, qui est liée à la SNCF, qui en assure l'exploitation journalière. Et TCL doit encore avoir, je crois, les machines, et c'est lui qui possède derrière. Donc, il y a une exploitation des caméras dans cet espace privé qui reçoit du public. Il y a aussi tous les magasins. Toutes les grandes surfaces dans lesquelles vous allez, la Fnac, Carrefour...
par rapport au vol à l'étalage, là, plutôt.
Oui, par rapport à tout ça, il y en a partout. On n'en parlera pas beaucoup ce soir, mais ça existe. Le troisième domaine, c'est l'espace privé qui ne reçoit pas de public, avec, il y a deux grandes parties, il y a les entreprises, dans lesquelles il y a une législation particulière, et il y a les privés. Il y a beaucoup de gens d'ensembles, d'immeubles, qui ont des petits systèmes de vidéosurveillance. Voilà. Alors, par rapport à ça, pourquoi c'est séparé? C'est qu'il y a plusieurs régimes d'autorisation. Hein, tous ceux qui reçoivent du public, c'est-à-dire les deux premiers espaces, eux doivent demander l'autorisation à la préfecture. C'est une loi de 1995, hein, qu'on a appelée la loi Pasqua, et il y a un certain nombre de conditions sur la durée de conservation des enregistrements, la proportionnalité, un certain nombre de critères. Quant aux espaces privés, qui ne reçoivent pas de public, les entreprises, entre autres, eux dépendent de la CNIL. C'est la Commission nationale informatique et liberté qui donne les autorisations et qui normalement suit les dossiers. Alors, tout ça c'était vrai au moment où ça s'est fait, mais avec le numérique, beaucoup de choses s'interpénètrent. Par exemple, la CNIL doit toujours intervenir quand il y a traitement d'un fichier. Et aujourd'hui, avec les fichiers images numérisées, on peut toujours dire qu'il y a du traitement quelque part. Et Alex Turc, le président de la CNIL, est intervenu il y a quelque temps pour dire « Mais c'est de notre ressort, c'est à nous de contrôler ça. » Parce que quelque part, on s'aperçoit qu'il y a très peu de contrôle. Il y a tellement de caméras et tellement peu de commissions de gens aptes dans les préfectures à être dans ces commissions que ça ne peut pas être contrôlé.
Et si la CNIL intervient pour les espaces privés sans public, elle a aussi, j'imagine qu'elle a aussi un rôle à jouer dans les deux autres catégories quand même.
Alors, elle a à jouer lorsqu'il y a traitement des images. Donc, dès que... Et le traitement, c'est pas facile à définir, parce que le traitement, il y a le stockage, mais dans un stockage, si vous compressez vos images, est-ce que c'est pas déjà un traitement? Si vous essayez après de faire de la recherche avec des algorithmes pour rechercher une personne, une voiture, en reconnaissance d'image, en analyse d'image, à ce moment-là, c'est du traitement. On sait pas bien où est la frontière. Hein. Et ça, c'est des choses qui demanderont sûrement à être précisées. Alors maintenant, à Lyon. On va rester maintenant dans l'espace public, parce que c'est celle qui nous intéresse le plus, c'est celle que nous payons avec nos deniers de contribuables. Et aujourd'hui, à Lyon, on est pas à 300, on n'en est pas très loin. Hein, si on prend, il y a eu dans le Progrès du 30 octobre dernier, il y a eu un recensement, il parlait de 261 caméras sur la voie publique. Et puis, il y en a un certain nombre de prévus. Alors 35 à Confluence, en plus, entre Confluence et la passerelle Saint-Vincent, 15 au parc Sergent-Blandan, d'autres dans le 7e, etc. Donc il y a, ça continue à bouger, et contrairement à ce qui avait été annoncé par le responsable de la sécurité à la mairie, le premier adjoint, Jean-Louis Touraine, où il parlait de ne pas étendre la vidéosurveillance au-delà du minimum qui semblait peut-être raisonnable. Malgré ça, ça continue, surtout quand il y a des nouveaux quartiers. C'est peut-être un argument de vente, d'ailleurs. On s'était posé la question à Confluence, quand il avait été annoncé les 11 caméras de Confluence. Pourquoi, alors qu'il n'y avait encore rien, il n'y avait pas une pierre qui était sortie du sol, pourquoi déjà penser à des caméras? C'est que, sûrement, ça devait servir dans les arguments pour faire venir une population là-bas. Alors, il y a la question de dans quel quartier? Répartition dans les quartiers. Si on prend l'histoire de la vidéosurveillance, ça remonte à peu près pour ce qui nous intéresse. Hein, on ne va pas remonter au début des caméras entre les deux guerres, mais dans les années 70, les premières qu'on a vues arriver, c'était principalement pour réguler le trafic routier. C'était des caméras sur pylônes, hein, il y en a encore dans des carrefours, et elles étaient, il y en a à peu près, il doit y avoir un peu plus maintenant, mais il y en avait 90 il y a 2 ans, je crois, qui, elles, sont gérées par le poste central de régulation du trafic, hein, qui est à l'hôtel de la communauté du Grand Lyon. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui, je ne sais plus si ça s'appelle comme ça, puisqu'on parle de pôle métropolitain aussi, ça va peut-être changer de nom. Et la continuité de ça, c'est tout ce qu'on a vu sur les autoroutes. Je ne sais pas si vous voyez maintenant, le long des autoroutes, quand vous roulez, il y en a plein le long des autoroutes. Donc là, ça s'est énormément développé. Donc c'est ça qui était un petit peu le début. Mais là, on est dans le parc privé, là. On n'est pas dans l'espace public, là, sur les bord d'autoroute. Hein.
Et le but, là, c'était de connaître les embouteillages, voir les accidents.
Voilà, c'est tout ça. Ça aide énormément les personnes qui ont à gérer, les sociétés qui ont à gérer les autoroutes.
Donc, là, c'était des caméras pas forcément précises. Il fallait voir s'il y avait des véhicules arrêtés ou qui circulent. Voilà. C'était pas pour lire une plaque, quoi.
Voilà. Ouais. Alors, la lecture des plaques, c'est autre chose, parce que ça existe aussi. Moi, ça m'est arrivé, je me rappelle un jour, en remontant du sud sur l'autoroute, de voir mon numéro affiché. Vous allez trop vite. Ça s'appelle le LAPI, la lecture automatique des plaques d'immatriculation. C'est quelque chose qui, légalement, je ne sais plus, ne peut pas s'introduire aussi facilement qu'en Angleterre ou qu'en Italie. Hein. Mais qui marche très bien. Hein. Ça, c'est des véhicules qui tournent, des véhicules de police équipés, qui tourne et automatiquement qui compare avec la liste des véhicules volés et qui peuvent trouver comme ça beaucoup plus facilement qu'une personne les véhicules volés dans une ville. Donc en France, c'est en 91 à peu près qu'on considère qu'on a eu le début d'installation de la vidéosurveillance urbaine avec les 84 caméras, je crois, à Levallois-Perret. Hein, qui sont arrivés, et à l'époque, vide juridique total. Hein. Il n'y avait aucune réglementation là-dessus. Et puis, un peu après, en 97, Vaux-en-Velin. Alors, c'était la première mairie de gauche à s'équiper. Il y a 5 caméras, bon, c'était pas très important, mais eux se sont appuyés sur la loi Pasqua, sur la loi de 95 qui était arrivée et qui encadrait la mise en place des caméras. Et c'est aussi à Vaux-en-Velin où il y a eu un comité d'éthique qui s'est mis en place, mais je ne connais personne qui en connaisse les résultats, qui en ait vu des résultats. Ensuite, on a eu à Lyon, et à l'époque, il faut se rappeler, c'était Raymond Barre qui était maire, on a eu une convention d'échange d'images entre ce fameux PC de gestion du trafic, d'un côté, qui gère des caméras, et de l'autre côté, la police municipale. De manière à pouvoir, je crois que dans la convention, ils avaient, c'était chaque année, on met une nouvelle caméra et le financement est par un des organismes une année et par l'autre après. Mais mutualisation de ces caméras. Donc on a eu ça qui a démarré. Et puis il y a eu, c'était la gauche étant au pouvoir à l'époque, on a eu Chevènement, donc avec le Villepinte, le colloque de Villepinte, le tout sur la sécurité et les contrats locaux de les CL, les contrôles locaux de sécurité qui sont mis en place. Et il y en a eu un de signé à Lyon et dans ce cadre-là a commencé à se réfléchir l'implantation des caméras. Alors c'était des comités dans lesquels on retrouvait le recteur, un certain nombre de gens, du président du conseil général, des personnalités comme ça.
Mais ce contrat local de sécurité, ça impliquait obligatoirement des caméras ? C'est-à-dire que c'est un choix local ou c'était une tendance globale
C'était global. C'est Villepinte. Hein. C'est Jean-Pierre Chevènement qui était... Alors, on reviendra peut-être un peu là-dessus parce qu'il y a eu voir comment la gauche a été confrontée à la question dite de la sécurité. Hein. C'est quelque chose qui explique beaucoup de prises de position d'aujourd'hui, surtout depuis mai dernier, hein, où il y a eu des bascules, où il y a un certain nombre de basculements dans d'autres domaines. Mais là aussi, à l'époque, sur la sécurité, il y a eu un basculement qui s'est fait. Donc, avec ce contrat local de sécurité, à Lyon, 25 mesures. Et parmi les mesures, une mesure qui disait... il faudrait mettre en place un réseau de vidéosurveillance. Donc ça a démarré comme ça. Et puis après, bon, ça c'est en 1999, les premières caméras. Alors il faut se rappeler que c'était la Duchère, c'était Gérard Collomb, qui était maire du 9e à l'époque. Hein, et il y a eu des discussions assez drôles, pas drôles, mais surprenantes un petit peu au sein de l'exécutif municipal là-dessus. Alors ensuite, après ça, bon, 2000, en l'an 2000, mise en place d'un schéma directeur hein, de vidéosurveillance à Lyon. 2002, la nouvelle municipalité de gauche donc approuve l'extension du réseau. C'est à ce moment-là où, en dehors de... Les premières étant en 99, Duchère, Pont de la Croix-Rousse et la Presqu'île, une partie de la Presqu'île. En 2002, c'est le Vieux-Lyon. Le Vieux-Lyon... La place du Pont, alors la place du Pont, c'est l'arrivée de toutes les immigrations depuis des siècles, hein. Donc une certaine dangerosité sûrement qui a dû être décelée là-bas, et puis 8e arrondissement avec Mermoz et le quartier des Pavillons. 2004, 40 caméras dans le Vieux-Lyon en plus, 30 dans Péry-Moncey là-bas, puis ça a continué en 2007 avec les berges du Rhône, 10 caméras dessus. Et on était arrivé, je crois, si vous me rappelez, 214 ou 219 à l'époque, juste avant, et le projet de 11 caméras à Confluence. Donc voilà un petit peu le développement à Lyon, et ça continue. Et ce n'est pas d'accord au sein du conseil municipal, puisque avec le projet maintenant des berges de la Saône, il y a la question de la sécurisation des berges et les députés, les conseillers municipaux UMP montent au créneau en disant il n'y aura pas assez de caméras sur les... c'est mal prévu ce qui va se passer sur
donc,
les...
Donc c'est considéré, c'est un réel outil pour eux de sécurisation, quoi.
Ah oui, c'est considéré comme tel, oui. Tout à fait, oui.
Ça veut dire aussi qu'on arrive à trouver assez facilement un accord gauche-droite sur cette question ?
Oui. Il y a un consensus là-dessus qui date, je vous dis, qui a démarré. Bon, comme ça, on n'en parlera plus tout à l'heure. En 77, vous ne vous rappelez peut-être pas, mais il y a eu un certain basculement en France, au municipal de 77, où la gauche a pris. Il y a beaucoup de maires qui se sont retrouvés qui étaient de gauche et qui sont arrivés. Ils ont été confrontés à la question de la sécurité. Jusque-là, on considérait que c'était beaucoup plus une responsabilité sociale de la délinquance et que c'était pas une responsabilité. On ne pouvait pas responsabiliser les délinquants Bon, je prends des extrêmes. Mais une fois à la mairie, fallait régler les problèmes de voisinage, les gens qui viennent se plaindre et tout ça. Et à ce moment-là, ça a commencé à se discuter. En 82, il y a une commission des maires qui s'est mise en place, avec Gilbert Bonnemaison, qui était le maire d'Épinay socialiste, qui a réfléchi là-dessus. Et il y a eu, en 82 déjà, un certain nombre de choses qui ont été exprimées sur la délinquance principalement, enfin sur la sécurité. C'était la gauche socialiste a changé à ce moment-là et a défini surtout son programme. Et puis il y a eu ensuite Jean-Pierre Chevènement au colloque de Villepinte où là sur la sécurité, bon, qui est intervenu avec les préfets, et c'est de là d'où c'est après ça que la vidéosurveillance s'est installée un petit peu partout. Donc même si c'est la droite qui souvent est intervenue, c'est Pasqua qui a fait la première loi, c'est en 2006 qu'il y a eu la deuxième par rapport au terrorisme, et puis la LOPCI 2 en 2011 sous Sarkozy, même si les lois ont été faites à ce moment-là, il y a un certain consensus sur la sécurité, sur les mesures à prendre. Alors bon, je ne vous embête pas avec le domaine privé qui reçoit du public, hein, parce que là, il y a des milliers de caméras entre le Citral, il y en a beaucoup. Quant aux espaces qui reçoivent du public, c'est pareil. Alors tout ça, c'est des choses qu'on connaît. Et c'est facile. Il suffit d'aller dans les recueils administratifs de la préfecture et vous avez toutes les autorisations de caméras. Alors la petite épicerie, machin, qui veut trois caméras, qui
la garde pharmacie, ces trucs, voilà. Et il y en a des pages et des pages.
Alors c'est pas tout à fait des pages et des pages parce que c'est pas tous les mois que se réunit la commission, mais je me rappelle en 2008-2009, on avait par exemple 102 dans des bureaux de poste, 60 dans les parkings Lyon-Parc-Auteau, 6 aux Acédic. Plus drôle, une à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, à l'école de police. Une caméra là-haut qui était autorisée par le... Donc, c'est des milliers, hein, qui passent. Donc, on peut comprendre que la commission de vidéosurveillance de la préfecture n'arrive pas à contrôler tout ça. Et puis, à Lyon, ils demandent à ce que les traitements ne soient pas faits à l'étranger. Alors, à Grenoble, ils ne demandent pas. Vous voyez, il y a un petit peu... une sorte de flou un petit peu dans tout ça.
C'est-à-dire que les agents qui regardent les caméras soient en France ?
Je ne sais pas ce que ça signifie.
Si c'est le traitement des données ?
Non, je pense que c'est du traitement d'image, sûrement. Peut-être pour que le traitement d'image... À partir du moment où ce sont des données individuelles, il y a une protection des données individuelles, et envoyer des données à l'étranger, c'est à ce moment-là...
On ne sait plus ce qu'on en fait, quoi.
Ben, ce qu'on en fait, et vous ne respectez plus certaines lois sur la... Le fait que les données...
Oui, on ne peut plus s'assurer que les données...
Je pense que c'est autour de ça, mais je n'ai jamais vraiment cherché la question. Palmarès des villes françaises, il y en a partout, ça a bougé, certains sont... Il y a quand même Villeurbanne, et ça, il faut le souligner, quand même, Villeurbanne refuse, a toujours refusé, malgré les pressions préfectorales d'il y a 2 ans et les pressions électorales au moment des élections, on en reparlera, qui tient. Il y a Colmar aussi, il y a eu... il y en a d'autres comme ça. Il y a Toulouse qui a fait un moratoire. Hein, quand M. Cohen est arrivé à la mairie de Toulouse, plutôt qu'en tirer les caméras, il a fait un moratoire.
Hein, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas utilisées ?
Elles ont été arrêtées. Oui.
D'accord.
Mais depuis, je crois que ça... Il n'y a pas d'extension, mais ça a repris. Hein. La Ligue des droits de l'homme, d'ailleurs, a fait un communiqué là-dessus à Toulouse... pour se plaindre du fait que la conclusion avait été celle-là.
Justement, on parlait retirer des caméras. Est-ce que, justement, ce phénomène est réversible ? Est-ce qu'il y a des communes qui pourraient, qui ont envisagé les enlever parce que ça ne sert à rien, parce que ça coûte trop cher ?
Nous n'avons pas fait d'études là-dessus. On en parlait tout à l'heure. À un moment, on le disait. On disait, regardez, il y a un certain nombre d'endroits dans le monde où... des caméras ont été installées et sont retirées. Alors, je me rappelle, c'était Mount-Vernon et puis Atlantic City. Alors, on s'est dit, il faut aller voir, pas sur place, mais chercher. Et pour Atlantic City, par exemple, qui est une ville qui est près de Philadelphie, où il y a pas mal de casinos, les caméras étaient gérées par la police. Hein. Aux États-Unis, elles sont souvent gérées par la police directement, hein, pas par des intermédiaires, des opérateurs municipaux. Et la précision n'était pas suffisante pour caractériser les faits, reconnaître des personnes et tout. Donc, ils ont décidé d'arrêter. Mais quelques années après, il y a eu le changement de maire, et de nouveau, moi j'ai vu des appels d'offres hein, là-dessus, une boîte qui sa proposition, et puis un nombre de caméras sur la Grande Avenue qui était en place. Donc, à certains moments, ça a pu s'arrêter, mais très souvent, ça reprend.
Hein. Mais c'était plus lié à un problème technique qu'à une véritable volonté politique.
Donc, oui, en fait, oui, oui, oui. Hein. Il y a des volontés politiques, comme on dit, Villeurbanne, par exemple, Jean-Pierre Brett, bon, s'est opposé à ça, mais dans le cas de l'évaluation, d'ailleurs, c'est intéressant, parce que, comme on le disait aussi tout à l'heure, dans le rapport qui a été fait par la Cour régionale des comptes, les baisses de délinquance constatées à Lyon et à Villeurbanne sont pratiquement les mêmes, alors qu'à Lyon, il y a donc près de 300 caméras sur la voie publique, et à Villeurbanne, il n'y en a pas. Alors à Villeurbanne, s'il y avait eu changement de maire à la dernière élection, quand Henri Chabert s'est présenté, je crois qu'il avait dans sa liste quelqu'un qui proposait une police à cheval. Hein, on a failli avoir une police montée là-bas plutôt que des caméras.
Donc, d'ailleurs, est-ce que les caméras, ça veut dire remplacement d'agents de police ?
Alors, est-ce que c'est pas l'enjeu, voilà, pour faire un petit peu avaler la pilule du nombre de fonctionnaires de police qui vont peut-être baisser ?
Moi, je vais pas le dire, mais il faut quand même, oui, bien se rappeler que Nicolas Sarkozy, avant d'être président de la République, a été ministre. Il a été ministre dans deux grands ministères, le ministère de l'Intérieur et aussi le ministère de l'Économie. Et je pense que c'est une clé un petit peu qui peut expliquer, sous la pression d'un certain nombre de hauts fonctionnaires aussi qui avaient des idées là-dessus, qui peut expliquer ce remplacement, cette idée de remplacement. D'ailleurs, c'est une idée qui est défendue par Alain Boer, le criminologue. Je crois qu'il aimerait bien être reconnu comme criminologue, mais il ne l'est pas tout à fait, au moins dans l'université française, au CNAM, oui, mais pas ailleurs. Mais c'est ce qu'il avait dit dans un livre. Il avait dit, alors qu'il a été conseiller de Sarkozy pour les questions de sécurité, il a dit que c'est sûrement avant tout un besoin pour remplacer des fonctionnaires. D'un point de vue économique, il fallait diminuer le nombre de fonctionnaires. Et l'idée qu'il y avait derrière, c'était grâce aux caméras, on va pouvoir diminuer le nombre de fonctionnaires.
Mais on peut imaginer quand même que ces caméras, il y a des gens derrière, elles ne marchent pas toutes seules. Donc il y a aussi des agents liés à ça.
Il y a des embauches, oui. Il y a des opérateurs. Alors, les opérateurs, c'est très variable. Il y a un certain... Si on prend Lyon, par exemple, Lyon, même si les caméras sont visualisables par la... Enfin, les images sont visualisables par la police en direct à certains moments... Il n'est pas mis en avant que c'est pour la police qu'il y a une vidéosurveillance à Lyon. Par contre, il y a des communes où c'est dit. Où c'est, je me rappelle, dans la région, dans le Midi, un représentant d'une mairie, ou peut-être, oui, je crois que c'était d'une mairie, qui disait, mais il faut que nos opérateurs, ils se sentent policiers, qu'ils aient l'instinct du chasseur. Il faut qu'ils aillent chercher là, pour trouver le... C'était un congrès de l'Association nationale des villes vidéosurveillées à Strasbourg ou à Nice, je ne me rappelle plus, mais c'était ce qu'il y avait. Donc vous voyez, c'est très variable, ça dépend aussi des communes. Hein. Derrière, il n'y a pas toujours la même chose qui est dite. Par contre, la réalité, elle est à peu près la même. C'est-à-dire il y a des opérateurs et il y a des images et il y a des transmissions à la police, puisque depuis 2006, hein, la loi sur le terrorisme, il y a l'obligation de transmettre à la demande les images à la police.
Mais qu'est-ce qu'on cherche justement dans ces images ? Est-ce que c'est juste de la prévention ? C'est pour élucider ? Est-ce que c'est des vols, des agressions,
police,
ou pour surveiller des comportements ?
Alors, c'est pas simple. Enfin, c'est pas simple. Je crois qu'en France, un certain nombre de réactions de la police, mais en Angleterre, c'était pareil, c'est... ils n'ont pas, la plupart du temps, généralement, la mainmise sur la commande des caméras, sur l'orientation. Et je crois que c'était à la préfecture de police à Paris qu'une personne expliquait on n'a pas le personnel suffisant pour le mettre derrière les caméras. Alors ce qui nous intéresse, bon, c'est quand on a besoin...
A
posteriori, ou même au moment où quelque chose se passe, qu'on puisse à ce moment-là, pour intervenir plus vite, avoir les images. Mais surtout ne pas veiller toute la journée derrière des écrans, même avec des logiciels d'alerte, ne pas avoir à le faire. Donc, à Lyon, les caméras sont municipales. Et ça pose d'ailleurs le problème, une question que vous aviez posée dans le questionnaire, là, qui était qui paye ? Parce que pour une fonction régalienne qui est le maintien de l'ordre dans le pays, donc la police nationale, ce sont les communes qui payent les caméras, les opérateurs, l'entretien et tout ça. Donc il y a des questions de transfert de financement qui existent là-dessus, qui font que quelquefois il y a des problèmes. Si vous vous rappelez...
Mais c'est un choix justement de la commune qui a voulu se doter de ça. Et je crois qu'il y a un plan en ce moment où justement c'est un petit peu les seuls. C'est-à-dire que pour les caméras de surveillance, il y a l'État qui paye la moitié de l'investissement.
L'État le payait, et là, le ministre vient de dire qu'il allait baisser cette subvention. Donc il y a quand même une volonté de ne plus subventionner comme avant les équipements dans les villes.
Mais c'est peut-être pour ça aussi que les villes s'y mettent, il y a un petit peu le ticket...
Après, les villes sont déjà bien dotées,
il y a peut-être... On n'est pas sur l'évaluation, mais je crois que c'est dans le rapport de Gilles qu'il y a eu un rapport en 2005 en Angleterre, qu'on utilise tous, parce que sur l'évaluation, il était très intéressant. Et je crois que c'est dans ce rapport où il citait en Grande-Bretagne un exemple. Il disait qu'il y a des communes qui n'avaient pas de délinquance. Chez elles, il ne se passait rien. Mais comme il y avait des subventions... Ils se sont dit qu'il ne faut pas les rater. Donc, ils sont équipés en caméra. Et ensuite, ils avaient un problème. C'est que chez eux, la délinquance, elle ne baissait pas. Ils ne pouvaient pas dire qu'il y avait une amélioration. Parce que zéro délinquance avant. Et il aurait presque pu y en avoir après s'il y avait eu de la dégradation des caméras, du vandalisme sur les caméras. Ouais. Ça aurait pu faire, au contraire, à l'inverse, ce genre de choses. Donc, on est confronté à ce genre de choses.
Donc, cette baisse des subventions de l'État, c'est qu'il n'y a plus besoin maintenant que le truc est lancé. Non. Peut-être qu'il y a un peu de ça aussi.
Mais vous avez des cas, je sais pas, Chazet-Azergues, bon, et c'est pas loin. 34 caméras.
C'est passé même au plan national, sur le. Ouais, c'est la commune où il y a le plus de caméras par habitant.
Ah bah oui, ça m'étonne, ça doit être 4000 habitants, si je me rappelle. C'est à l'époque, on avait regardé, surtout qu'il y avait d'autres choses qui se passaient là-bas à Chazet, donc c'était. Donc voilà. Bon, question sur à l'étranger. Bon, à l'étranger, c'est variable, mais c'est très développé. L'Espagne, il y en a beaucoup. Madrid s'en est bourré. Barcelone, je me rappelle avoir vu des utilisations de logiciels de reconnaissance de personnes. Pas de reconnaissance faciale, mais d'essayer de déterminer des personnages sur des images, donc dans le métro de Barcelone.
Des attitudes, savoir si c'est des agressions ou...
Un petit peu, oui. Enfin, ils n'en étaient pas encore là, mais
des mouvements de foule,
ils avançaient, oui. Ouais. Donc ça existe. Par contre, il y a un pays, l'Allemagne semblait être un peu différente. Je me rappelle un représentant allemand qui, à Toulouse, expliquait que... En Allemagne, ils l'utilisent principalement lors des matchs de football, par exemple, lorsqu'il y a des grands rassemblements, mais sinon, pour la police est équipée. Je me rappelle en Allemagne avoir vu à Cologne la police avec sa caméra, un petit peu comme le 21 octobre sur la place Bellecour, quand il y avait sur la moto le policier derrière avec sa caméra qui filmait et l'hélicoptère pareil par-dessus. La police a énormément de moyens pour filmer. On peut se demander pourquoi d'ailleurs la commune prête ses caméras pour ça, parce que pour des missions de police, il n'y en a pas vraiment besoin. Il y a quelques années, on avait été voir le collège d'éthique sur la vidéosurveillance à Lyon pour leur demander que la mairie arrête les caméras sur le parcours des manifestations. Il y a une question de responsabilité avec la loi de 1935. Donc, il n'y a pas à filmer ça. Alors, ce qui a été dit, c'est que... Alors, ils nous ont dit plusieurs choses. Et bon, ils nous ont dit que, de toute manière, la police, oui, avait des moyens de filmer tout ce qu'ils voulaient. Mais il avait été dit aussi que, et je crois que c'est Jean-Louis Touraine qui l'avait dit, je ne sais plus où, que quand c'était une manifestation, pas de gros plan. On ne prend que la foule pour voir si à un moment il ne se passe pas quelque chose d'important en termes de sécurité. Et il se trouve que dans le comité d'éthique, il y avait, dans le collège d'éthique, pardon, il y avait une personne qui était là qui a dit « Ah ben c'est drôle parce que j'ai eu un officier de police au téléphone il y a quelques temps et il m'a dit « Oh, je vous ai vu sur mes écrans ». Donc il avait pu reconnaître, je pense, la personne. Bon, il y a eu un petit froid à ce moment-là dans l'honorable assemblée et on ne sait pas bien quand même comment ça se passe. Il y a des problèmes de transparence. Bon, on nous a donné beaucoup de garanties. Le CIRDEL avait, en plusieurs années, a fait des courriers avec des réponses du comité d'éthique. Mais
par exemple, exemple, le Cirdel participait au comité d'éthique?
Non. Le Cirdel ne participait pas, mais...
Il était invité, il avait refusé ou il n'était même pas?
Non, mais il n'existait pas. C'est un collectif, ce n'est pas une association. Hein, donc, ça n'a pas d'existence en tant qu'association.
Ou au moins, des associations qui faisaient partie du Cirdel étaient dans le comité ou pas?
Oui, il y en a qui étaient dedans. Mais, je le redis une fois de plus, en 2008, et je crois que c'est toujours, ou en 2009, et c'est toujours vrai, il n'y a jamais eu une réclamation d'une personne qui a été faite au collège d'éthique.
Oui, mais d'un autre côté, comme on ne connaît pas les images et ce qu'il y a sur les images, c'est difficile de porter plainte, d'attaquer.
Non, mais il y a tout ça, mais c'était quand même un des objectifs principaux de la mise en place de ce collège d'éthique.
Alors, on n'a pas beaucoup d'informations sur les recours auxquels on pourrait avoir droit.
Alors c'est sur le droit à l'image, si vous pensez que ça peut vous porter tort. Mais les images sont utilisées, par exemple, alors là, c'est tout à fait normal, dans le cadre de procédures judiciaires. C'est pour ça que le délai de conservation à Lyon a été porté de 8 à 15 jours pour qu'en cas de demande par un juge, les images puissent s'en transférer. Alors là, ça sert régulièrement, dans tous les sens d'ailleurs. Ça sert aussi quelquefois à montrer que je sais pas, une personne a été agressive par rapport à une autre, ou des fois que la police s'est mal comportée avec des personnes. Hein. Tout, ça marche dans tous les sens hein, quand même. Mais après, il faudrait pouvoir mesurer, pouvoir évaluer.
Donc, c'est-à-dire qu'une caméra de vidéo dans la rue, elle stocke. Enfin, on doit conserver les images que 15 jours.
Alors, il me semble me rappeler que la durée légale, ça doit être maximum un mois, et c'est la préfecture. Quand vous faites la demande à la préfecture, vous indiquez une durée.
D'accord.
Mais vous indiquez aussi les raisons pour lesquelles vous mettez des caméras. Et la commission de la préfectorale juge si la durée de conservation concorde avec
l'usage.
Cohérente avec ce que vous avez proposé comme objectif pour la surveillance. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et parce que normalement, il y a effacement. Il y a effacement, c'est un peu le droit à l'oubli hein, qu'on va retrouver ici. Il y a un effacement. Mais en numérique, on n'est jamais sûr de rien. Il y a eu un certain nombre d'histoires célèbres là-dessus.
Donc on va faire une petite pause musicale.
Ils ont repeint les poteaux. Ils ont repeint les poteaux. Avant, ils étaient gris. Et ben maintenant, ils sont gris. Et maintenant, ils sont gris. Ils ont mis des panneaux pour qu'on affiche bien dedans. Avant, on voyait plus les murs. Et ben maintenant, on voit plus les murs ni les panneaux. Parce que c'est pas un moulin. Avant, tout le monde rentrait. Et ben maintenant, plus personne ne sort. Ils ont mis de la lumière dans une rue où y a rien. Y avait rien, et ben maintenant, eh ben y a rien, mais on le voit bien.
On vient d'écouter Erwan Pinard, Centre-Ville. Et donc, on reprend notre émission donc, sur la vidéosurveillance avec Claude Massot. Donc, on avait un peu évoqué l'état des lieux lyonnais, l'historique, le pourquoi, pourquoi, enfin, pas forcément justifié, mais un pourquoi de l'installation de ces caméras. Et on avait envie de s'intéresser à l'impact aussi. Qu'est-ce que ça coûte? Pour quelle efficacité?
Ah, le prix des caméras. Bon, très rapidement, on l'avait estimé à un moment, on avait cherché, je crois qu'on était arrivé entre 20 000 et 70 000 euros en 2007, je crois, on avait fait ça dans la Ligue des droits de l'homme. Et puis, il y a eu quand même des gens qui avaient accès à d'autres chiffres, puisque nous, on l'avait fait qu'avec les chiffres municipaux. La Cour régionale des comptes, elle a fait la même chose. Et elle a dit qu'en 2003, il y avait eu, par exemple, 855 000 euros par an depuis 2003 pour la vidéosurveillance. Et que le coût d'installation d'une caméra est en moyenne de 58 744 euros. Ah oui, c'est-à-dire près de 60 000 euros. Donc on retombait à peu près sur ce que nous, on avait estimé à partir des chiffres qu'on avait vus dans les procès-verbaux des conseils municipaux.
Parce qu'après, il y a le fonctionnement aussi.
Il y a le fonctionnement. Mmh. Donc, c'est toujours d'après la Cour régionale des comptes, 200 000 euros par an, salaire et maintenance.
Donc ça, c'est sur Lyon.
Voilà, oui.
Donc ça fait pour 200 caméras, quoi, 200, 300 caméras.
Ah, je vous laisse faire le calcul pour voir où vos impôts sont passés.
Ouais. Alors, mais de toute façon, que ce soit l'État qui subventionne ou la collectivité locale, c'est toujours nos impôts.
Toujours, c'est l'impôt sur le revenu ou l'impôt local, mais ça passe par l'un des deux. Il y a une question qui est assez intéressante, dont on parle peu, qui est comment tout ça se met en place et l'existence de sociétés intermédiaires. Il faut bien voir que le client final, c'est les communes. Hein, ce sont les conseils municipaux. Et à l'autre bout, il va y avoir les vendeurs de matériel. Il va y avoir aussi les installateurs, parce qu'il faut bien voir que des caméras, il faut faire des tranchées, poser des fibres optiques ou utiliser des fourreaux qui existent déjà, mais c'est un gros travail de terrassement.
Et donc on retrouve le BTP dont on sait que c'est transparent.
On va retrouver, par exemple, vous allez retrouver les gens qui assurent aussi le maintien des réseaux d'énergie dans les villes, le maintien de la distribution. Pour l'eau, bon, on les connaît, c'est les deux grands, c'est Suez d'un côté, et puis c'était la Générale des Eaux, c'est-à-dire Veolia aujourd'hui. Bon, côté Suez, dans la vidéosurveillance, c'est Ineo. Alors, c'est Ineo avec une autre société, d'ailleurs, depuis peu, enfin, ça a évolué, hein, qui ont un grand immeuble à QC, là-bas. Et c'est ces gens-là qu'on retrouve. Et c'est des gens qui connaissent bien les municipalités. Parce que le problème dans un petit conseil municipal, il n'y a pas forcément un spécialiste en électronique, il n'y a pas forcément un spécialiste en travaux de terrassement. Et à ce moment-là, il y a des sociétés qui vont faire les intermédiaires aussi. Alors il y a des sociétés de conseil, il y a les sociétés finales qui elles aussi savent travailler avec les municipalités. Il y a des organismes comme la Caisse des dépôts et consignations. C'est quand même le grand financeur des communes. Bon, c'était intéressant de savoir que une des évaluations à Lyon et à Marseille a été faite par Securitis, qui est une partie d'IRCAD. Alors IRCAD, c'est la partie immobilière de la Caisse des dépôts et consignations, près de la Part-Dieu, là, sur le boulevard, ils sont là-bas. Et celui qui en a la tête, d'ailleurs, est un ancien commissaire divisionnaire, Éric Chalumeau, qui a eu des réflexions relativement intéressantes. Hein, c'est-à-dire, sur les évaluations, on lui a dit, il y a aussi des problèmes, comme les problèmes sociaux auxquels la vidéosurveillance, elle peut pas résoudre les problèmes sociaux qui sont derrière la délinquance, par exemple. Donc c'était intéressant de voir qu'il y avait ce discours-là. Mais pour revenir il y a une manne financière des communes qui intéresse ceux qui ont l'habitude de le faire.
Ceux qui en profitent déjà en plus.
Alors je ne sais pas si le mot profiter est le mot qu'il faut utiliser, mais ceux qui vont installer l'éclairage, les sociétés d'éclairage, les sociétés qui vont installer des canalisations un petit peu partout. Et entre celles-là qui déjà savent, ont leurs entrées et savent comment obtenir les marchés, bon, on n'ira pas jusqu'à Topaz avec les balayeuses d'un Pagnol et la prévarication, mais il y a des habitudes de travail, et puis il y a les sociétés intermédiaires. Alors, deux conseils d'une part, et une société par exemple comme l'Association nationale des villes vidéosurveillées, qui maintenant depuis 2008 est à Lyon, et elle avait, pour vous dire comment ils travaillent, ils avaient des cotisations. Leurs membres ont des cotisations. Les communes, c'est gratuit.
Mais pour les
donc les leurs membres, voilà, les autres membres, c'est les entreprises.
Leurs membres, c'est les entreprises. Et les entreprises payent, alors je ne sais plus combien c'était relativement élevé, c'était 4 500 euros en 2009 pour une entreprise de plus de 50 salariés, qui leur donne droit à des facilités publicitaires, vers les collectivités, qui leur donne droit à une participation au comité d'orientation de cette association des villes vidéosurveillées. Donc on voit un petit peu comment se structurent ces intermédiaires.
Association, elle fait du conseil.
Elle fait du conseil. Et d'ailleurs, elle a rejoint un grand réseau qui s'appelle le réseau Idéal, qui était, lorsqu'une mairie veut, et pas, il n'y a personne chez eux qui connaisse bien un problème, on peut faire appel à eux sur l'assainissement, par exemple, sur l'éclairage. Il y a des divisions à l'intérieur. Et c'est un grand réseau comme ça qui renseigne. Et eux, maintenant, sont rentrés dans ce réseau-là comme n'importe quel service, pas comme service, mais comme prestation municipale, un petit peu. Donc, c'est... Bon, il y aurait beaucoup à dire sur la N2V qui essaye de faire converger la police, la gendarmerie, les municipalités,
donc qui fait du lobbying,
qui fait aussi, et qui organise des conférences, des formations, qui a intégré une revue, enfin qui était à l'extérieur avant, donc
qui va conseiller par exemple sur des modèles techniques qui sont justement ceux que préconisent leurs associés entreprises.
Ils peuvent le faire, je crois. Ils doivent le faire. Et puis, il y a aussi d'autres conseils. Il y a d'autres entreprises de conseils. Mais ils peuvent le faire. Hein. S'il y a des tests qui sont faits. Une des personnes, par exemple, qui actuellement est à N2V, et c'est peut-être la raison pour laquelle c'est à Lyon maintenant, je crois qu'il est détaché, il est un employé territorial, enfin, d'une commune du Grand Lyon. Et lui, il dit, mais quand on a des tests à faire, des fois, on ne demande pas l'autorisation à la préfecture. Ça voulait dire, on met des caméras pour quelques jours pour faire les tests, sans respecter la loi. Alors, c'est un peu choquant quand vous entendez quelqu'un qui dit ça, et d'autre part, qui va être conseil auprès des communes, après, pour l'installation, avec des règles d'éthique qui doivent être mises en place, et tout ça. Alors, bon, ça, vous ne le trouverez plus sur leur site. Mais bon, nous, on l'a vu à l'époque et ça nous a beaucoup surpris, vous voyez, ces choses-là. Donc voilà. Donc bien voir. Moi, j'en arrivais presque à me dire, on a affaire, comme on le disait pour le matériel militaire, à un complexe sécurito-industriel, un petit peu, hein, qui est en place, qui assure des débouchés, hein, ça donne du travail à un certain nombre de personnes, mais quand même, qui a des objectifs pour lesquels la société civile n'a pas forcément le contrôle en tout ça. Donc, ça fait partie sûrement des pistes à explorer pour...
Parce qu'on parlait de l'installation, mais après, il va y avoir tous les marchés concernant la maintenance qui peuvent lier les collectivités pour un certain nombre d'années.
Oui, c'est le cas d'ailleurs. Ça se passe avec des caméras qui tombent en panne. Il y a beaucoup, beaucoup d'histoires là-dessus. Hein. Alors, vous m'aviez demandé pourquoi vidéoprotection par rapport à vidéosurveillance.
Oui, le glissement sémantique qu'il y a eu.
C'est classique, c'est arrivé avec la LOPSI 2, ça, donc en 2011. Dans les attendus, c'était bien expliqué. Hein, il faut pas faire. Ça fait peur, la surveillance. Hein, alors que la protection, bon, c'est l'État qui est là dans sa fonction de protection des nationaux et ça a été remplacé. Même à Lyon, d'ailleurs. Très peu de temps après que ça soit passé officiellement, à Lyon, je me rappelle, Jean-Louis Touraine, il utilisait le mot vidéoprotection dans sa bouche, on le retrouvait. Alors, il y a un autre glissement important, c'était le glissement de la sûreté vers la sécurité. Et ça, c'est quelque chose de... Enfin, moi, qui m'apparaît comme fondamental.
Sûreté, c'est sûreté de l'État, non ? On l'entend souvent.
La sûreté... De quoi on se protège ? On se protège contre un risque, bon, atteinte aux biens, atteinte aux individus, ça peut être une tempête, ça peut être quelqu'un qui va vous tuer, on se protège contre ça, et ça fait longtemps qu'on se protège. Donc la surveillance pouvait, par rapport à l'incendie par exemple, il y avait des tours de surveillance qui existaient dans un certain nombre d'endroits, on surveillait les ennemis, les animaux font la même chose, hein, les surinages, je me rappelle, il y a toujours un qui regarde au loin s'il n'y a pas un oiseau qui arrive sur la colonie. Donc c'est quelque chose d'assez naturel chez cette surveillance. Et puis, donc la sûreté, ça va être comment diminuer le risque, quelles mesures on prend pour diminuer ces risques. Il faut se rappeler que la police, c'était la sûreté nationale en France. La sûreté marocaine, ça, je crois que ça existe encore d'ailleurs. Le mot sûreté était le bon mot. C'est le mot qui est dans la, qui était dans la Déclaration des droits de l'homme, d'assurer la sûreté. Ça fait partie des libertés de base. Et c'est le mot normal. Quand on parle sécurité, on parlait avant tout d'insécurité, qui est un sentiment. Le sentiment d'insécurité, ça c'était très utilisé. Et puis on a vu sécurité et qui est un sentiment. Et à ce moment-là, on voit que sur un sentiment, on peut faire des manipulations. Hein, c'est lié à la peur. Et c'est un petit peu tout ce basculement qui a eu lieu avec les notions de sécurité intérieure aussi, qui maintenant est là.
Mais c'est un bon symbole, parce qu'effectivement, la vidéosurveillance, c'est fait pour rassurer. C'est pas forcément efficace, mais il y a la majeure partie, c'est...
Oui, c'est un peu la conclusion qu'on arrive à en tirer, parce que les évaluations, bon, on n'aura pas le temps de parler là, les évaluations vont toutes dans le même sens, c'est qu'il est très difficile d'évaluer, presque impossible. Vous avez des cas, alors là c'était 99-2000, je me rappelle sur la Duchère, à une réunion du conseil municipal, il était dit, on met de la vidéosurveillance, on met des mesures. À la réunion d'après, constat que, alors c'était en juillet par rapport à mai, constat que dans le 9e, la délinquance avait baissé. Et Gérard Collomb dit, et encore, à la Duchère, c'est encore plus important. Et malgré ça, ils ont mis en place la vidéosurveillance. Vous voyez, ça semblait pas lié vraiment à des résultats qu'on pouvait lire.
Mais par rapport à une évaluation prévue, est-ce qu'au départ, quand on installe les caméras, on se pose la question des critères? Est-ce que ça va être uniquement la baisse de la délinquance ou d'autres choses? Sur quoi on base?
Oui.
Par exemple, le coût, par rapport au coût, par exemple, qu'est-ce que ça...
C'est principalement par rapport à la délinquance. Ouais, c'est très difficile. On n'y arrive pas. C'est pour ça que sur l'évaluation, vous ne trouvez rien de vraiment pertinent. Et ceux qui font de la recherche sur l'évaluation, on arrive à dire, ça paraît inefficace, mais on n'arrive pas vraiment
à se prononcer. C'est difficile à prouver. Ouais.
C'est très, très difficile. C'est ça, surtout, qui apparaît. Alors, si vous prenez Lyon, bon, les caméras, la Duchère, c'était la délinquance du 9e. Et la presqu'île, c'était les commerçants, le tourisme et tout ça. De même, le vieux Lyon, un petit peu. C'était les grands axes qui, à mon avis, on pourrait mesurer là quelque chose. On pourrait dire d'ailleurs que Lyon est devenue une grande ville touristique, qu'elle n'était pas avant 2000, et peut-être que la vidéosurveillance a joué un rôle dedans. Je me fais peut-être un peu l'avocat du diable, là, mais je veux dire, là, il y a une mesure à faire. Mais sur la délinquance, personne ne peut dire. Les chiffres de la police, ils sont dans tous les sens quand il y a...
Parce qu'il y a tellement de paramètres, parce que vous pouvez dire aussi que quand vous refaites un quartier comme Saint-Jean, etc., si vous comparez Saint-Jean maintenant à il y a 20 ans, c'est pas non plus le même quartier.
Non, mais alors, faut aller plus loin. Faut dire Saint-Jean maintenant, il y a 400 ans.
Ouais.
Et là, on voit que les discours d'aujourd'hui, des fois, sur la sécurité, je me rappelle le discours à Paris, le quartier du Châtelet, qui était un véritable coupe-gorge, où à l'époque, l'éclairage s'est mis en place. L'éclairage, c'est une mesure qu'on peut regarder un peu, une mesure de sûreté, un petit peu semblable à la vidéosurveillance, hein, mais qui marche pas de la même manière, mais ça s'est mis en place petit à petit. Il y a eu des obligations de mettre une bougie sur les fenêtres, de mettre un lumignon dans les rues, à l'entrée, à la sortie des rues. Une obligation d'avoir une bougie avec soi quand on sortait du spectacle. Il y a eu, je ne sais plus quoi, il y avait un nom pour ça, de gens qui vous accompagnaient avec un éclairage de l'époque. Et l'éclairage est quelque chose sûrement qui a joué un grand rôle dans la sûreté des villes. Et qui aujourd'hui nous pose un problème avec l'énergie, le problème de l'utilisation de l'énergie. On peut dire, on met plus la lumière dans les rues, mais est-ce qu'il va pas y avoir des agressions, est-ce qu'il va pas se passer des choses? Donc c'est quelque chose qui est des mesures. L'éclairage, ça bouge. On peut se poser d'autres questions aujourd'hui. Peut-être sur la vidéosurveillance, on s'en posera différemment dans quelques années. C'est fort possible.
Sauf que c'est quand même quelque chose qu'on voit moins, justement. Donc on n'est pas forcément, conscient qu'on se promène au milieu de caméras.
C'est vrai, c'est vrai. C'est... Ça, c'est un. Mais on le sait quelque part parce qu'on en parle, puisque dans la presse, on va vous dire, on a pu élucider telle affaire, parce qu'il y avait des caméras. Donc on sait que ça existe. On les voit pas, mais on sait que ça existe. Et on joue là sur la peur, enfin, à mon avis, c'est il faut le lier à la peur. Hein. La vidéosurveillance, c'est deux choses qui marchent ensemble et c'est l'aspect principal. La délinquance, il faut des gens sur le terrain. Le terrorisme, on sait bien qu'il n'y a qu'en infiltrant les réseaux terroristes qu'on peut savoir des choses par avance. en prédiction. Sur le reste, il y a le fameux effet plumeau aussi dont on parle souvent.
Oui, de déplacer, voilà, déplacer à deux rues d'après.
Ce qui est tout à fait, c'était vrai avec l'éclairage. Bon, une rue qui était une rue un peu dure, un peu chaude, bon, bah, si elle est éclairée, ça se passe ailleurs. Un certain nombre de ventes sauvages qui ont lieu dans des rues, bon, bah, se passe ailleurs, plus sous l'œil des caméras. Il n'y a que les personnes en état d'ébriété qui ne vont pas se rendre compte, qui ne vont pas étudier avant pour voir qu'il y a une caméra et qui vont faire n'importe quoi sous l'œil d'une caméra. Mais c'est quelque chose qui n'est pas de la... Pour l'objectif qu'elle se donne, hein, qui a été quand même très fortement et partout dans le monde même, de dire une lutte contre la petite délinquance, ça ne marche pas.
Ça paraît comme un gros machin qu'on ne soupçonne pas forcément.
Et sur la grosse délinquance, je ne sais pas si vous avez vu, alors là, ils s'en moquent. Hein. Il y a eu quelques temps des images à Marseille sur l'attaque d'un fourgon blindé qui a été filmé complètement. Bon, visage découvert, tout. Pour des gens qui vivent dans la clandestinité, c'est pas ça qui les dérange. Et puis c'est un peu aussi, dans ce domaine, on peut penser hacking contre hacking, comme dans tout ce qui est informatique, et on peut imaginer qu'un certain nombre de choses puissent être détournées, que les images puissent être récupérées par d'autres. Alors on parle du cryptage, mais c'est vrai, il y a du cryptage, mais il y a toujours du décryptage qui existe. Les câbles,
d'intercepter les données, en fait.
Intercepter les données. Il y a des systèmes, un système mesh qui travaille en radio, enfin Wi-Fi, où on n'utilise plus pas de câbles pour la vidéosurveillance. Mais ça se renvoie d'une voiture à l'autre, avec des postes. Mais bon, c'est piratable très facilement. Alors là, bon, c'est plus difficile. La fibre optique, c'est un peu plus difficile, mais ça peut se faire, à mon avis. Hein.
Ça veut dire que ça arrive à un moment sur des serveurs, et les serveurs, on sait qu'on peut...
Voilà. On peut intervenir
dessus. On peut y avoir accès, quand on voit qu'ils arrivent à avoir accès au Pentagone ou je ne sais pas où, je pense que...
D'intervenir au CSUL à Lyon, au centre de supervision urbaine, ça ne doit pas être très difficile.
De toute façon, peut-être que des hackers peuvent intervenir, mais on peut se poser la question quand même, qu'en tant que citoyen, quel pouvoir de décision on a. Quels moyens ? Bon, on parlait au début du site sous surveillance.net, donc là qui est une espèce de cartographie participative, donc qui permet aussi d'en parler et puis de se mobiliser là-dessus.
Peut-être se rendre compte aussi.
Et de se rendre compte, effectivement.
C'est peut-être le point le plus important, hein, parce que ils sont intervenus il y a peu de temps, donc depuis juillet, et bon, il y a eu un reportage sur FR3. Qui a été fait, et puis il y a les cartes. Alors on retrouve à Lyon des caméras, on peut le voir sur smartphone si on a Android, je crois chez Samsung par exemple, on récupère ça, et vous avez la carte avec des caméras et des indications. Mais après, il faudrait savoir quoi en faire et combien de personnes. Ça demande sûrement du développement, mais quelque part, ça nous rappelle quand même que les caméras existent. Et donc c'est une bonne initiative, je pense.
Eh bien, on va conclure là-dessus, parce qu'il est 19h pile. Et donc, on laisse la place au Canu Info, et on se retrouve dans 2 semaines. Au revoir.
Merci beaucoup.
Merci. Jésus promise. Don't return!